Je n'ai pas à me poser la question si je vais avoir des ennuis, mais seulement quand vont-ils m'arriver? Et puis nous savons aussi que notre passage sur Terre est limité dans le temps, et je sais bien que certains sont convaincus que ça fait partie de l'ordre normal des choses, mais je trouve quand même que la vie finit plutôt mal. Les écrits des prophètes de l'Ancien Testament reflètent les tribulations de l'existence par le fait que leur message est souvent déprimant. Avec le chapitre 31 d'Ésaïe, commence le cinquième oracle de jugement d'une série de six qu'on appelle le livre des malheurs. C'est tout dire. Ce chapitre et le suivant continuent l'avertissement du prophète contre une alliance militaire de Juda avec son voisin du sud. Comme Ésaïe le prédit et l'histoire le rapporte, l'Égypte fut vaincue par les Assyriens en même temps que ces derniers ravagèrent Juda et assiégèrent Jérusalem. Ces prophéties annoncent aussi qu'à la fin des temps, Israël fera le choix désastreux de se placer sous la protection de l'Antéchrist. Je commence à lire le chapitre 31. Malheur à ceux qui s'en vont en Égypte pour avoir du secours et qui comptent sur les chevaux qui mettent leur confiance dans le nombre des chars et dans la grande force des équipages, mais ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne se soucient pas de l'Éternel. Et pourtant, lui aussi agit avec habileté pour faire venir le malheur. Il ne révoque pas ce qu'il a décrété et il se dressera contre le parti des méchants et contre les appuis de ceux qui font le mal. L'Égyptien est un homme, il n'est pas Dieu, et ses chevaux sont des créatures terrestres. Ce ne sont pas des êtres surnaturels. Quand l'Éternel abaissera sa main, le protecteur chancellera et le protégé tombera. Ils périront tous deux ensemble. Versets 1 à 3. À cette époque, les Égyptiens étaient grands éleveurs de chevaux qu'ils utilisaient pour tirer leurs chariots de guerre. Ésaïe affirme que Dieu sait ce qu'il fait quand il refuse que son peuple s'allie avec l'Égypte, et il qualifie la faction qui veut absolument cette alliance le parti des méchants. Malheur aux grands du royaume qui ont choisi l'Égypte plutôt que l'Éternel. Mais malheur à moi également si comme eux je m'agouille au lieu de me confier en Dieu. Par exemple, c'est bien d'économiser des sous pour ces vieux jours, mais ça ne suffit pas. Encore faut-il par la foi croire que Dieu pourvoit et pourvoira aux besoins de celui qui s'attend à lui. Le psalmiste exhorte les fidèles disant « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Fin de citation. Je continue le texte. « Car l'Éternel m'a dit, lorsque le lion ou le petit du lion défend sa proie en rugissant, la foule des bergers appelée contre lui a beau pousser des cris, ils ne l'effraieront pas et leur tapage ne le troublera pas. Ainsi le Seigneur des armées célestes descendra pour combattre sur le mont de Sion, sur sa colline. Comme un oiseau déploie ses ailes pour couvrir sa couvée, ainsi le Seigneur des armées célestes protégera Jérusalem. Oui, il la défendra et la délivrera. Il passera au-dessus d'elle et il l'épargnera. » Versets 4 et 5. Comme un lion qui n'a peur de rien et l'oiseau qui surveille ses petits, l'Éternel est résolu à défendre son peuple contre ses ennemis. Ésaïe fait allusion à l'ange exterminateur qui passa au-dessus des Hébreux et les épargna, mais qui frappa les premiers-nés égyptiens. Je continue. « Revenez donc à l'Éternel, dont vous vous êtes tout à fait détournés, Israélites. » En ce jour-là, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or qu'il s'était fabriquées avec des mains coupables. Versets 6 et 7. Ésaïe prédit que l'Éternel délivrera les Israélites et qu'ils finiront par abandonner leurs idoles. Alors il les exhorte à le faire tout de suite, signifiant par là leur retour à Dieu. Je finis le chapitre 31. La Syrie tombera sous les coups de l'épée. Pas de l'épée d'un homme, une épée surhumaine fera d'elle sa proie. Les Assyriens fuiront devant cette épée-là. Alors leurs jeunes gens seront astreints à la corvée, ceux qui étaient solides comme un rocher fuiront épouvantés, et devant l'étendard leurs chefs seront tremblants. C'est là ce que déclare l'Éternel dont le feu brûle dans Sion et qui a sa fournaise au milieu de Jérusalem. Versets 8 et 9. La gloire de l'Éternel réside à Jérusalem, sur le mont Sion, d'où sortira le feu du jugement qui consumera les ennemis d'Israël. Suite à la destruction de son armée par Dieu, le roi assyrien leva le camp en toute hâte et retourna dans sa capitale, Ninive. Nous arrivons au chapitre 32, qui est comme un rayon de soleil entre les cinquième et sixième oracles du livre des malheurs. Je commence à lire. Voici qu'un roi exercera son règne avec justice et ses ministres gouverneront selon le droit. Et il y aura un homme qui sera comme un abri contre le vent, un refuge contre l'orage, comme un cours d'eau sur un sol desséché, ou comme l'ombre d'un rocher massif dans un désert aride. Versets 1 et 2. Quand Ésaïe dresse ce tableau des temps messianiques, Ézéchias, roi juste et fidèle à l'Éternel, règne sur Juda. Mais nombre des grands du royaume n'ont pas sa disposition d'esprit. Par contre, pendant le millénium, il n'y aura plus ni impiété ni corruption. Les ministres seront droits dans leur conduite et justes envers le peuple, car le Messie lui-même protégera les faibles. Le monde n'a encore jamais vu un tel gouvernement. Ésaïe a déjà exhorté ses contemporains, disant « Placez votre confiance toujours en l'Éternel, car il est le rocher de toute éternité. » Dans la vie, il y aura des tempêtes, et être jugé par Dieu est la pire de toutes. Mais chacun peut trouver refuge en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, le rocher des siècles. Je continue. Alors, les yeux de ceux qui devraient voir ne seront plus aveugles. Les oreilles des auditeurs se feront attentives. Les gens écervelés réfléchiront afin d'apprendre. Et la langue des bègues parlera clairement avec facilité. On ne traitera plus l'insensé comme un noble. On ne dira plus du trompeur qu'il est quelqu'un de grand. Versets 3 à 5. Le peuple sera guéri de sa cécité spirituelle. Il pourra recevoir et comprendre la parole de l'Éternel. Alors, les valeurs et les priorités des gens seront celles de Dieu. Il y a belle lurette que nos sociétés occidentales ont abandonné les vertus morales d'antan. Cela n'a rien d'étonnant au vu de la croyance répandue et enseignée comme dogme que l'homme descend d'un animal qui lui proviendrait d'une soupe de protozoaires qui eux sortent « Allez donc savoir d'où ». Celui qui aujourd'hui défend les valeurs morales judéo-chrétiennes est considéré très vieux jeu, un relent égaré du Moyen-Âge. Cependant, ces concepts anciens seront remis à l'ordre du jour lorsque le Messie, le roi des rois, établira et imposera son royaume de justice sur la terre entière. Alors, le mensonge, la corruption et les autres vices seront jugés et les coupables punis sur le champ. Je continue plus loin en compressant. « Aux femmes qui vivaient tranquilles, debout, écoutez-moi. Vous, filles insouciantes, écoutez mes paroles. » Dans un peu plus d'un an, vous tremblerez, vous insouciantes, car la vendange n'aura pas lieu et qu'il n'y aura pas de fruits à récolter. Frappez-vous la poitrine, lamentez-vous sur les belles campagnes, sur les vignes fécondes, car le palais est déserté et la ville animée abandonnée. La citadelle, avec la tour de guet, servira de caverne, et les ânes sauvages y prendront leurs ébats. Les troupeaux iront y paître. Versets 9 à 14. Ésaïe a prononcé cette prophétie en 702 avant Jésus-Christ. Il s'adresse plus spécialement aux femmes de Jérusalem qui étaient habituées à jouir de tout le confort de cette époque et qui vont être privées de leur train de vie luxueux à cause de l'invasion assyrienne. Mais ce ne sera qu'un jugement passager et le premier acte d'une série de catastrophes qui aboutiront à la prise de Jérusalem par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ. Je continue. Il en sera ainsi jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu sur nous d'en haut. Verset 15. Comme d'autres prophètes, Ésaïe annonce que les temps messianiques seront caractérisés par une très grande activité du Saint-Esprit qui renouvellera les cœurs individuels et la société dans son ensemble. À la Pentecôte, les apôtres furent remplis de l'Esprit et se mirent à parler dans les langues des Juifs qui se trouvaient à Jérusalem et qui venaient de tous les coins de l'Empire romain pour célébrer la fête. Devant leur étonnement ou leur mépris, l'apôtre Pierre a cité une parole du prophète Joël qui développe celle d'Ésaïe. Je la lis. « Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards, par des songes, vos jeunes gens, par des visions, recevront des révélations. Et même sur les serviteurs, sur les servantes, moi, je répandrai mon esprit en ces jours-là. » Fin de citation. Cet événement se réalisera pleinement pendant le millénium. Alors, tous les croyants, jeunes et vieux, seront remplis de l'Esprit, prophétiseront et proclameront la gloire de Dieu dans les langues dont ils auront besoin. La même chose est arrivée au tout début de l'Église, mais son étendue fut limitée aux seuls disciples du Christ. Je continue. « Et alors, le désert deviendra un verger !» Et le verger sera semblable à la forêt. Le droit habitera dans le désert et la justice dans le verger. Le fruit de la justice sera la paix. L'effet de la justice, ce sera la tranquillité et la sécurité à tout jamais. Mon peuple habitera un domaine de paix dans des demeures sûres, dans des maisons tranquilles. Versets 15 à 18. Ésaïe annonce avec plusieurs images très parlantes la paix et la prospérité qui régneront durant le millénium. Cette dernière sera physique et morale car on assistera aussi à un renversement de rôle entre ceux qui détenaient le pouvoir et les faibles. Je finis le chapitre 32. La forêt tombera abattue par la grêle et la cité tombera au plus bas. Bienheureux serez-vous! Vous sèmerez partout le long d'eaux abondantes, et vous pourrez laisser les bœufs comme les ânes en liberté. Versets 19 et 20. La forêt représente l'Assyrie, la grêle le jugement, et la cité Ninive, capitale de l'Assyrie, elle sera humiliée, en fait entièrement détruite par les Babyloniens. Par contre, le prophète célèbre à nouveau le bonheur de ceux qui vivront dans le millénium. On ensemencera les campagnes traversées par de nombreuses rivières et le bétail sera au champ sans qu'on ait besoin de le garder car aucun ennemi ne sera plus à redouter. Nous arrivons au chapitre 33 qui est le sixième et dernier oracle du jugement du livre des malheurs. Ésaïe l'a prononcé alors que les Assyriens ont déjà envahi Juda et se préparent à assiéger Jérusalem. L'angoisse est à son paroxysme. Dans ce discours, le prophète ne profère plus aucune menace contre Juda comme précédemment, car maintenant Dieu va se lever pour arrêter l'avance assyrienne. Je commence à lire. « Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et n'a pas été pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. » Verset 1. Ésaïe exprime ici le même principe que l'apôtre Paul quand il écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Fin de citation. Cette prophétie concerne d'abord le châtiment qui guette la Syrie, mais elle s'adresse également aux puissances qui, à la fin des temps, attaqueront Israël. Dieu venge son peuple et se retourne contre tous ceux qui le persécutent. Je continue. Éternel, fais-nous grâce, nous espérons en toi. Chaque matin, sois notre force, délivre-nous au temps de la détresse. Quand le tonnerre retentit, les peuples fuient, quand tu te lèves, les nations se dispersent, on rafle leur butin comme raflent les sauterelles, et l'on se rue dessus comme se précipite un essaim de criquets. Versets 2 à 4. À la prière de la foi succède l'assurance de l'exaucement. L'empire assyrien se composait de plusieurs nations qui vont subir une cuisante défaite. Comme si la scène se passait sous ses yeux, le prophète voit Israël piller le camp de ses ennemis comme une nuée de sauterelles qui rase tout sur son passage. Ça fait barbare, mais fait partie des règles de la guerre. Je continue. L'Éternel est sublime car il siège là-haut. Il remplira Sion de la droiture et la justice. Tu passeras tes jours dans la sécurité. La sagesse et la connaissance sont les richesses du salut. Honorez l'Éternel, tel est tout ton trésor. Versets 5 et 6. Quand le millénium sera établi, le droit, la justice et la paix régneront, et les élus auront la sagesse et la connaissance de Dieu. Je continue. Les vaillants hommes crient dans les rues, les messagers de paix pleurent amèrement, les routes sont désertes, plus personne ne passe sur les chemins, le dévastateur a rompu l'alliance, il méprise les villes, il n'a de respect pour personne, le pays est en deuil, il dépérit, le Liban est confus, ses arbres sont flétris, la plaine du Saron ressemble à un désert, le pays du Bazan et le mont du Carmel ont perdu leur feuillage. Verset 7 à 9. Le roi Ézéchias avait envoyé des ambassadeurs aux Assyriens pour leur verser la somme énorme qu'ils avaient exigée pour prix de la paix. Mais une fois la rançon obtenue, ils sont revenus sur leurs promesses. De retour à Jérusalem, les émissaires annoncent que l'ennemi exige la reddition de la capitale et continue à ravager le pays. Ésaïe mentionne les régions connues pour leur belle végétation. Saron est une plaine fertile en bord de mer qui va de Tel Aviv au port de Haïfa au pied du mont Carmel en Galilée. Cette vallée luxuriante était devenue comme le désert qui s'étend au sud de la mer Morte. Le Bazan est un plateau élevé et bien arrosé situé à l'est du Jourdain. Je continue. « Maintenant je me lève, dit l'Éternel, maintenant je me dresse, oui, maintenant je montre ma grandeur. » Vous ne concevez que du foin, vous n'enfantez que de la paille, votre souffle est le feu qui vous consumera, les peuples seront brûlés à la chaux comme des épines coupées quand on y met le feu. Versets 10 à 12. La mesure est comble. L'Éternel a assez attendu, la fureur des Assyriens contre Juda le fait lever de son trône. Il s'adresse à eux disant en substance que leurs projets contre Jérusalem avorteront misérablement et tourneront à leur ruine. L'expression « brûler à la chaux » indique l'intensité du jugement qui va suivre et l'image des épines qui se consument exprime la rapidité de l'exécution des soldats assyriens. Je continue. « Vous qui êtes au loin, écoutez donc ce que j'ai accompli et vous qui êtes prêts, « connaissez ma puissance. Les pécheurs d'Ancion ont été terrifiés. Ceux qui ne respectent pas Dieu se sont mis à trembler. Ils s'écrient, « Qui de nous peut rester en présence de ce feu qui consume? Qui pourra séjourner auprès de brasiers éternels? Celui qui se conduit selon ce qui est juste et qui parle toujours selon la vérité, qui rejette les gains acquis par extorsion ?» qui n'accepte jamais de pot de vin, qui ferme ses oreilles aux propos criminels, qui se bouche les yeux pour ne pas voir le mal, cet homme habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés lui serviront d'abri, son pain lui sera assuré et l'eau ne lui manquera pas. Versets 13 à 16. L'armée assyrienne est détruite. Ésaïe s'adresse maintenant aux Israélites et aux païens, disant qu'ils doivent se laisser instruire par le jugement impitoyable qui a frappé les Assyriens. Au vu de ce qui vient d'arriver, tous les mauvais bougres sont saisis de frayeur, car ils se rendent compte qu'ils méritent ce que viennent de subir les ennemis de Juda. Effectivement, ils ne pourront pas subsister devant l'Éternel, à moins qu'ils ne se repentent de leurs mauvaises actions. Nul n'aime entendre parler du Dieu saint qui est un feu dévorant, car ce n'est pas comme ça qu'on se fait des amis. Cependant, c'est bien ainsi qu'il se définit lui-même. Par contre, ceux qui sont justes et droits n'ont pas à craindre le jugement. Bien au contraire, la protection et le pain quotidien leur seront assurés. Sous la Nouvelle Alliance, la justice s'obtient par la foi en Jésus-Christ et seulement de cette manière. Je continue. Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté et ils verront toute l'étendue du pays. Tu te souviendras de tes craintes et tu demanderas où donc est l'inspecteur, celui qui percevait les taxes, où est le contrôleur des tours. Non, tu ne verras plus tout ce peuple arrogant, peuple à la langue obscure, à la langue barbare que l'on ne comprend pas. Verset 19. L'armée assyrienne est en déroute. Les habitants de Juda, réfugiés dans Jérusalem, peuvent retourner chez eux et être fiers de leur roi, qui avait été humilié par les envahisseurs. Le fonctionnaire ennemi qui fixait le tribut à payer et l'officier qui examinait de près les fortifications de Jérusalem ont disparu avec l'armée en déroute. Ceci dit, le prophète voit plus loin jusque dans le millénium quand Israël possédera tout le pays qui avait été promis à Abraham et quand les élus auront le privilège d'admirer la gloire du Messie. Je continue. Mais tu contempleras Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, résidence tranquille, tente qui ne sera plus enlevée et dont les piquets ne seront plus jamais arrachés et dont aucun cordage ne sera plus tranché. Là, l'Éternel se montrera magnifique pour nous et ce sera une région de larges fleuves et de vastes canaux. Aucun bateau à rames ne s'y avancera, aucun vaisseau splendide n'y passera, car l'Éternel est notre chef, il est notre législateur, l'Éternel, notre roi, nous sauvera. Verset 20 à 22. Ésaïe console le peuple disant qu'un jour Jérusalem ne sera plus menacée. Les fêtes seront célébrées en toute sécurité et le peuple ne risquera plus d'être ballotté en exil comme on transporte une tente de nomades. Les grandes capitales comme Babylone, Ninive, Thèbes furent construites sur des fleuves et des canaux qui rendaient une attaque difficile. Jérusalem n'a rien de semblable, mais l'Éternel l'entourera de sa protection et la mettra à l'abri de tout agresseur. Ceci dit, un prophète de l'Ancien Testament a écrit qu'au début du millénium, Jérusalem deviendrait un port et qu'un fleuve traverserait la ville, joignant la Méditerranée à la mer Morte. Je finis le chapitre 33. Quant à vous, Assyriens, vos cordes relâchées ne tiennent plus le mât, ils ne sont plus capables de déployer les voiles, alors on se partage un immense butin. Tous en prendront leur part, y compris les boiteux. Aucun des habitants ne se dira malade. Le peuple qui habitera à Jérusalem recevra le pardon de ses fautes. Versets 22 à 24. D'ailleurs les Assyriens, Ésaïe s'adresse aux nations qui, à la fin des temps, attaqueront Israël. Ils sont comme un navire dont les cordages sont lâches, donc inefficaces. Leur entreprise échouera et ils deviendront la proie des Israélites qui en feront un grand butin. Le prophète conclut disant que le pardon des péchés, la disparition de la maladie, de toute anomalie physique et de la mort seront des traits du royaume de Dieu. Ah, comme je voudrais déjà y être!